Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble avec ce soir à la une cette histoire terrible, une femme faussement vaccinée qui est décédée à l'hôpital de Garches, c'est près de Paris. Cette patiente de 57 ans avait triché, elle n'avait pas reçu d'injection, mais elle avait acheté un pass sanitaire 200 euros à un médecin peu scrupuleux. Les réanimateurs n'ont pas réussi à la sauver. Leur chef de service, Jilali Alan, sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actualité maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le protocole sanitaire à l'école en question. Révision demandée aujourd'hui par les syndicats d'enseignants, ses faiblesses soulignées par des chercheurs. Routes coupées, trafic ferroviaire perturbé, le sud-ouest ce soir face aux crues, nous serons à Bayonne. Et puis, c'est un peu l'équivalent du ballon d'or en
ballon
rugby.
Ballon ovale.
C'est ça, le ballon ovale, le demi de mêlée toulousain et capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, désigné aujourd'hui meilleur joueur de rugby du monde. Les courses dans le Quintet Plus en nocturne à Vincennes. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 10, le 11, le 8, le 5, le 9, le 14 et le 7.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va vous expliquer le vote du week-end. Référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la bataille finale en F1, dernier Grand Prix à Abu Dhabi, Hamilton versus Verstappen, tous les coups sont permis ou presque. 18h40, avec Marion, on va refaire nos régions comme chaque vendredi. 20 minutes positives, curieuses, près de chez vous, avec au menu Noël solidaire en Alsace, guerre de l'eau dans les Alpes et Saint-Jacques-du-Chef en Normandie. 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud et sa bande de journalistes internationaux. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à
tous. On parlera de quoi,
hein ? On va bien sûr passer en revue l'actualité politique de la semaine bien chargée. Et puis on parlera d'une maladie, paraît-il, très française, les sigles SNCF, RATP, PFUE, on a découvert ça cette
PSG.
Semaine. On en raffole, PSG, et ça agace nos voisins.
Effectivement, 19h15, donc ils refont la France à tout à l'heure. Amandine, des points réguliers sur le temps aussi tout au long de l'émission avec vous, Claire. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
La tendance.
Ça sera une journée toute en nuances de gris avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
On en compterait 36 000 en France, d'après les derniers chiffres de l'assurance maladie. De faux certificats de vaccination aux conséquences parfois dramatiques.
Oui, on atteste l'histoire de cette quinquagénaire à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Elle disait avoir été vaccinée, mais contaminée, son état s'est vite dégradé jusqu'à son décès, Nicolas Burnand.
Oui, le 30 octobre dernier, une femme de 57 ans est admise au service de réanimation de l'hôpital en détresse respiratoire. Cette mère de famille a été contaminée par son enfant positif au coronavirus. Elle a un certificat de vaccination, n'a pas d'antécédents médicaux ou de facteurs de comorbidité. Et pourtant, elle a besoin d'être intubée et d'une machine pour pouvoir respirer. Cette situation interroge donc les réanimateurs qui effectuent une série de tests pour comprendre ce qui se passe précisément. Ils découvrent alors que la patiente ne possède pas d'anticorps malgré sa vaccination. Son état de santé se dégrade rapidement. Elle décède 10 jours plus tard. Interrogée, son mari finit par avouer qu'un médecin lui a fait un faux certificat pour la somme de 200 euros en argent liquide. Aujourd'hui, le personnel médical de l'hôpital regrette de ne pas avoir eu les bonnes informations pour pouvoir administrer le meilleur traitement thérapeutique possible, ce qui aurait peut-être pu lui sauver la vie. La famille de la patiente envisage aujourd'hui de déposer et plainte contre le médecin.
Les précisions de Nicolas Burnand pour RTL et le chef de service en réanimation de cet hôpital de Garches, donc le chef des réanimateurs qui ont tenté de sauver cette patiente. Jilali Hanan sera notre invité dans quelques minutes.
C'est un appel lancé cet après-midi par tous les syndicats d'enseignants et ce n'est pas si courant. Dans une lettre au Premier ministre Jean Castex, il demande des mesures en urgence pour endiguer l'épidémie au sein des écoles. À l'image de Stéphane Crochet de l'UNSA, joint pour RTL par Anaïs Bouissou.
Dans les écoles, lorsqu'on commence à avoir des cas positifs, ça devient ingérable. On est sur un flux continu, jour et soir, semaine et week-end, depuis 2 semaines. Et ce ne sera pas tenable dans la durée. Nous n'avons jamais eu autant de collègues au bord de l'épuisement, assez souvent en pleurs, nous demandant de l'aide, des solutions. C'est une alerte au sens propre. On demande d'une part une révision de toute la procédure lorsqu'il y a un cas positif parmi les élèves et d'autre part le recrutement d'enseignants remplaçants.
Une révision du protocole donc demandée par l'UNSA. On rappelle qu'il y a plus d'un enfant sur 100 aujourd'hui qui est malade du Covid à l'école primaire en France en ce moment. Un protocole dont les failles ont été soulignées cette semaine par une équipe de chercheurs de l'INSERM, Virginie Garin.
Oui, alors aujourd'hui quand il y a un cas chez un élève, on ne fait plus la classe, on teste tous les enfants dans cette classe. Les négatifs restent en cours, les autres reviennent au bout de 7 jours. Mais ça ne suffit pas, estiment ces scientifiques de l'INSERM. Pour casser la chaîne de transmission du virus, il faudrait tester systématiquement tous les enfants sans attendre un premier cas. Comme l'explique l'épidémiologiste Pascal Crépet, certains de nos voisins le font depuis longtemps.
Par exemple, les Anglais et les Allemands testent très régulièrement, jusqu'à 2 fois par semaine. Donc les parents ont la possibilité d'avoir 2 tests par semaine à pratiquer chez eux sur leurs enfants. Et les travaux qui ont été faits, notamment par l'INSERM, montrent que c'est une stratégie qui est totalement efficace et qui permettrait donc de garder le contrôle sur l'épidémie, sur la circulation du virus chez les enfants, tout en gardant un maximum d'enfants à l'école en évitant de fermer les classes.
Voilà, donc tester tous les enfants chaque semaine avec des tests salivaires qui sont beaucoup moins contraignants pour les jeunes enfants permettrait de repérer plus vite les cas et d'éviter des clusters.
Les précisions de Virginie Garin pour RTL.
Des rues transformées en torrents de boue, des rivières dont le niveau s'élève dangereusement. De la Reims au pied des Pyrénées à Bayonne, importantes inondations dans le sud-ouest depuis ce matin. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes ont été placées en vigilance rouge.
Bonsoir Denis Grandjou.
Bonsoir.
Vous êtes à Bayonne pour RTL où les commerçants des bords de la Nive se préparent à voir l'eau monter pendant plusieurs heures encore. Hein.
Oui, je me trouve sur la rive droite de la Nive, juste en face des Halles de Bayonne, en plein centre-ville et sur le quai, tous les restaurateurs se préparent au pire.
On met de la mousse expansive tout à fait pour moins qu'à feutrer les petits endroits où l'eau pourrait s'infiltrer. Et après, on a anticipé aller chercher à la plage des sacs de sable et voilà, pour essayer de minimiser les dégâts.
Vous êtes un peu inquiet ou pas?
Ouais, franchement, oui et non, oui, on a un petit peu. Mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Normalement, ça devrait le faire, mais bon, c'est jamais cru exceptionnel.
Alors la mairie a fermé les 3 ponts au-dessus de la Nive par sécurité, ce qui n'empêche pas les Bayonnais de venir assister à ce spectacle assez impressionnant de vagues énormes sur cette rivière, la Nive, d'habitude très calme.
Oui, c'est super impressionnant. On n'avait pas vu ça depuis 2014, mais là, vraiment, c'est super impressionnant. La Nive est démontée et c'est rare quand on voit ça.
On n'a jamais trop envie de voir notre ville, surtout que moi, c'est ma ville natale, donc on n'aime pas voir les images comme ça. J'ai la chance d'être sur les hauts, on va dire, des quais. Donc si je suis sous l'eau, je pense que tout le monde sera sous l'eau.
Pour l'heure, aucune évacuation des quais n'a été décidée. Tout le monde attend ici la marée haute aux alentours de 22h pour voir si la situation peut s'aggraver ou non ici à Bayonne.
Denis Grandjou à Bayonne pour RTL.
Ce sont des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin.
Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié.
Arnaud Montebourg qui appelle les candidats de la gauche à la présidentielle pour organiser le rassemblement. 4 appels à Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo. 4 répondeurs sur les vidéos en tout cas, car en réalité ils ont quand même réussi à échanger, c'est ça Marie-Bénédicte Thaler?
Oui, il a finalement parlé à Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Pour Fabien Roussel, pas encore de confirmation. Alors si le but était de faire savoir qu'Arnaud Montebourg se démène pour rassembler la gauche, c'est réussi. 600 000 vues sur Twitter pour ses vidéos. Mais c'est beaucoup moins certain qu'il soit parvenu à convaincre ses interlocuteurs. L'un d'eux est carrément furieux du procédé, selon son entourage. Et rien ne fuit chez les autres, ce qui n'est pas très bon signe. Yannick Jadot répondra probablement publiquement demain. Il tient une réunion publique à Laon, dans l'Aisne. Anne Hidalgo, elle sera en meeting à Perpignan dimanche. Côté primaire populaire, on ne se décourage pas. On veut croire que l'unanimité affichée chez Mélenchon ou Jadot n'est pas partagée par tous dans leur camp. 5000 militants sont donc à pied d'œuvre pour une mobilisation qui va monter crescendo, disent les organisateurs, et ça commencera dès demain dans une 30aine de villes.
Indiscrétion de Marie-Bénédicte Thaler pour RTL. Votre journal se poursuit dans un instant. Garde à vue prolongée pour l'ancienne star de la natation, Yannick Agnel. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Ce soir, l'ancien nageur, l'ancienne star, Yannick Agnel, accusé de viol et agression sexuelle sur mineurs, est donc toujours entendu au commissariat de Mulhouse.
Oui, où il s'entraînait à l'époque des faits dénoncés. Yannick Collant, vous êtes à Mulhouse pour RTL, où sa garde à vue a été prolongée.
Oui, prolongé de 24 heures jusqu'à samedi midi, les enquêteurs ont besoin de temps pour revenir avec lui sur ce qui a pu se passer. En 2016, à Mulhouse, il est accusé de viol et d'agression sexuelle répétée par la fille de son entraîneur de l'époque. Elle avait 13 ans, elle faisait partie des nageuses du Mulhouse Olympique Natation. Elle côtoyait les nageurs du groupe pro, dont Yannick Agnel, et le champion olympique avait même été hébergé plusieurs mois au domicile familial. Face à ces accusations, Yannick Agnel collabore du mieux possible avec les policiers pour établir la vérité, c'est ce que nous indique son entourage. Les enquêteurs mulhousiens qui avancent prudemment, car cette affaire a éclaté dans un contexte particulier. Cela fait plusieurs années que Yannick Agnel est en conflit financier avec les dirigeants du Mulhouse Olympique Natation, des dirigeants dont certains sont justement des proches de la plaignante. Les policiers doivent donc s'assurer qu'il n'y a absolument aucune porosité entre les deux affaires.
Yannick Collant à Mulhouse pour RTL.
Il y aura peut-être des frictions. Pour l'heure, c'est un couple qui a tenu à s'afficher uni. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le tout nouveau chancelier allemand Olaf Scholz.
Et au lendemain de la conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne, les deux dirigeants ont affiché leur intention de travailler main dans la main sur de nombreux sujets comme l'Ukraine, les frontières et les finances européennes. C'est ce qu'a dit Olaf Scholz.
Notre défi sera de faire en sorte d'avancer sur toutes ces grandes thématiques. Et je suis sûre que nous réussirons et que c'était là une première visite qui en annoncera une grande série d'autres et que les relations franco-allemandes continueront de s'épanouir sur la base de cet échange et de tout ce qui nous attend à l'avenir.
Le chancelier allemand Olaf Scholz.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pour le rugbyman français Antoine Dupont, oui, le demi de mêlée toulousain, désigné à 25 ans meilleur joueur du monde, Jean-Michel Rascol.
Oui, il est seulement le troisième français à figurer au prestigieux palmarès de World Rugby après Fabien Galthié et Thierry Dussautoir. Dupont, avec un T, côtoie désormais les légendes de son sport comme Dan Carter, lauréat à trois reprises. Antoine Dupont.
Vraiment de joie et de fierté, beaucoup de sentiments et d'émotions qui se mélangent. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son nom dans cette liste, on a presque l'impression d'y faire tâche, mais voilà, maintenant après il faut tout faire pour pouvoir y reprétendre et continuer de performer tout le temps. Quoi.
Un champion toujours constant, il est directement impliqué dans 60% des essais du 15 de France, comme dans ceux du Stade de Toulousain. Son coéquipier sous les deux maillots, le pilier Cyril Baye.
Et moi je l'appelle le Martien, donc je viens pas de la même planète que nous et Antoine impressionne à chaque sortie et c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui et on a de la chance aussi qu'il soit en équipe de France.
Martien ou ministre de l'Intérieur, c'est son autre surnom, référence à sa capacité à suivre les actions, à se proposer à l'intérieur du terrain. Le meilleur joueur du monde est ce soir à Cardiff, ligne de départ demain d'une nouvelle campagne européenne.
Et on suivra ça avec vous, Jean-Michel Raxwell. Merci.
Merci Marion, on vous laisse aller prendre un petit grog et vous revenez tout à l'heure pour refaire nos régions. Le temps maintenant clair. On a donc, on le disait dans le journal, on était sur les rives à Bayonne inondées, ouais. Deux départements qui sont en alerte rouge.
Exactement. Des pluies diluviennes se sont abattues aujourd'hui sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. On a même battu des records puisqu'en l'espace de 24 heures, 202 mm sont tombés à la Reims. Donc c'est l'équivalent d'un mois de pluie. Et puis comme vous le dites, Bayonne est sous l'eau. Donc la Nive est en plein débordement. Le pic de crue est estimé à 22 heures. Pour l'instant, elle est à 6 mètres et dépasse les records de juillet 2018 et de 2014. Donc côté ciel, de la pluie, on en aura encore pour demain dans le sud-ouest. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va faiblir au des heures pour ne presque plus rien avoir. Donc en fin de journée, on aura encore un ciel bien chargé dans la matinée à l'est du pays, mais là c'est pareil, ça va se morceler, on va pouvoir avoir de belles éclaircies, mais avant l'arrivée quand même d'une nouvelle perturbation qui déjà commence par l'ouest du pays et puis va progressivement gagner du terrain dans la journée. Donc moralité, ça sera quand même assez gris, hormis en Méditerranée, on pourra bénéficier d'un beau soleil avec des températures tout simplement de saison. Hormis au lever du jour, on pourra avoir quand même des gelées dans le nord-est, donc attention au regel dû à l'humidité. On pourrait avoir des routes assez glissantes.
Attention donc demain matin quand on prend la voiture. Exact. Merci Claire.
La brigade RTL Soir.
On va maintenant s'intéresser sur RTL à un scrutin sous tension. On vote en France ce week-end. On vote à 16 000 km de la métropole. Référendum en Nouvelle-Calédonie. Pour ou contre l'indépendance? On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
C'est le troisième référendum de ce type ces dernières années là-bas.
Oui, si vous avez une impression de déjà-vu, c'est donc normal. Les deux premières fois, en 2018 et en 2020, les néo-calédoniens ont décidé que l'archipel resterait français. Mais l'accord de Nouméa signé en 98 prévoit non pas un, ni deux, mais trois référendums. Donc, on annule tout et on recommence. Cet ultime vote sera crucial. Et la question est la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?
Référendum qui va se dérouler quand même sous tension.
Oui, l'épidémie de Covid a crispé les deux camps. Les indépendantistes boycottent le scrutin parce qu'ils jugent que le virus a empêché de mener une campagne équitable. Les loyalistes, les pro-France, donc, ont appelé à un vote massif tout en reconnaissant que cette campagne était forcément plus difficile à mener. Et avec la non-participation d'un camp, la question de la légitimité du scrutin va forcément se poser.
Pourquoi la Nouvelle-Calédonie française, c'est un enjeu stratégique ?
Alors déjà parce que l'île abrite une richesse rare, le nickel, un minerai indispensable notamment à la fabrication du matériel électronique. La Nouvelle-Calédonie, c'est 20% des réserves mondiales, c'est considérable et forcément, cette manne attire les convoitises, notamment de la Chine. Enfin, la Nouvelle-Calédonie représente un intérêt géopolitique énorme pour la France, 1,4 million de kilomètres carrés de surface maritime et une fenêtre sur le Pacifique. Le territoire abrite d'ailleurs la plus grande base militaire française.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Vincent. Petite pause et ensuite dans RTL Soir on va revenir sur cette terrible histoire, on l'évoquait dans le journal, cette femme faussement vaccinée qui avait acheté son pass sanitaire et qui est décédée dans un hôpital francilien. Gilles Elianan et ses équipes ont tenté en vain de la sauver, c'est le chef du service réanimation de l'hôpital de Garches et il sera notre invité juste après ça.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée. Dans RTL Soir, on va donc maintenant revenir sur cette histoire terrible. On vous en parlait dès 18h à Garches, près de Paris. Une femme de 57 ans, sans antécédents, est décédée du Covid à l'hôpital. Cette femme était faussement vaccinée, c'est-à-dire qu'elle n'avait reçu aucune injection. Mais elle avait acheté son pass sanitaire, 200 euros, à un médecin peu scrupuleux. C'est son mari qui a fini par avouer. Bonsoir Gilles Elianan.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du service de réanimation de cet hôpital Raymond Poincaré à Garges. Vous faites partie de ces médecins qui ont donc tenté en vain de sauver cette patiente. J'imagine que vous avez envie de pousser un coup de gueule ce soir, que ça vous met en colère.
Oui, écoutez, je crois que ce qui est important à faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas parier sur sa vie. Autrement dit, il y a des informations qu'on ne peut pas dissimuler à son médecin si l'on veut se donner toutes les chances, en particulier lorsque l'on a été contaminé par le SARS-CoV-2 et qu'on développe une forme sévère de la Covid-19. Je crois que c'est le premier message qu'il faut faire passer. Il est fondamental d'assumer jusqu'au bout lorsqu'on décide de ne pas se faire vacciner. Ouais. Parce que la connaissance pour le médecin de cette information peut parfois changer la façon dont on prend en charge le patient.
Parce que c'est une question de vie ou de mort, vous n'administrez pas le même traitement à quelqu'un qui est vacciné ou non quand il arrive en réanimation ?
C'est pas aussi caricatural que ça, mais dans une forme telle qu'a présenté cette personne qui n'avait pas d'antécédents médicaux particuliers et qui avait une forme qui a progressé quand même rapidement vers une atteinte respiratoire sévère, eh bien, précocement, on aurait pu absolument lui administrer des anticorps neutralisants dont on sait qu'ils sont efficaces pour réduire le risque de progression de la maladie et le risque de faire une forme sévère.
Le mari de cette femme, quand il a fini par avouer le coup du faux pass, on imagine qu'il a été pris de regret, de remords, c'est terrible.
Oui, je ne peux pas trop parler à sa place, mais on peut comprendre effectivement la situation, surtout que lui est vacciné et convaincu par la vaccination, a eu du mal à convaincre son épouse qui finalement n'était pas vaccinée. Et donc, encore une fois, quand la patiente est arrivée à l'hôpital, elle était consciente, elle n'était pas comateuse. Ouais, donc la formation de la vaccination, c'est elle qui l'a apportée. Et c'est bien la situation très particulière dans laquelle on se trouvait d'une personne relativement jeune, sans antécédents particuliers, et qui faisait une forme d'évolution grave et rapide, que l'on s'est intrigué. Qu'on a dit qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette histoire et qui nous a poussé à chercher ce quelque chose de particulier parce qu'on pensait alors qu'elle était vaccinée.
Ça veut dire que désormais, quand un patient entre à l'hôpital, vous ne vous fiez plus forcément à sa parole ? Est-ce que vous regardez directement, vous vérifiez s'il a des anticorps ou non ?
Alors, d'abord, on fait confiance au patient parce que la règle, la principale façon d'exercer ce métier, c'est quand même la confiance partagée entre le patient et son médecin. Donc oui, on fait toujours confiance à ce que nous disent nos patients, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'on a aussi appris de ce cas. Hein, on a aussi appris, et donc on sait que lorsque l'on a une forme sévère à l'ère de la vaccination, une forme sévère qui arrive en réanimation, eh bien, il faut doser les anticorps. Il faut vérifier le niveau de protection vaccinale. Ouais. S'il est inexistant, bah, c'est soit parce que la vaccination date depuis trop longtemps, soit parce qu'il y a une maladie sous-jacente qui a empêché l'organisme de produire les anticorps malgré le vaccin, soit qu'on n'a pas été vacciné.
Voilà. Est-ce que vous avez des doutes sur d'autres patients en ce moment en réanimation ?
En tout cas, ça n'est pas un cas isolé. Hein, très clairement, et on a effectivement d'autres cas de figure, au moins une autre situation actuellement d'un patient qui n'a absolument aucun anticorps circulant, qui a une forme sévère en réanimation. Donc,
qui a dit être vacciné.
Et qui continue de dire avoir été vacciné. Oui.
Et certains de vos confrères ailleurs en France ont déjà eu affaire à ce genre de cas. L'assurance maladie dit, mais c'est compliqué de vérifier ce chiffre. Il y a 36 000 faux certificats aujourd'hui qui circulent.
Écoutez, moi ça ne m'étonne pas hein, qu'il y ait des faux certificats de vaccination qui circulent. C'est terrible. C'est terrible et je crois que s'il y a une raison de parler de cette personne et de cette patiente aujourd'hui, c'est bien celle-là, c'est pour alerter toutes ces personnes qui ont un faux pass sanitaire, qui ont un faux certificat de vaccination, qu'elles comprennent bien qu'elles ne se rendent pas service à elles-mêmes. Au contraire, elles augmentent leur risque. Le faux certificat de vaccination ne protège pas contre le virus et au contraire, il peut aiguiller faussement le médecin qui vous prendra en charge.
Et j'imagine que vous devez être en colère contre ces médecins peu scrupuleux. On sait que, par exemple, il y a un praticien du Val-de-Marne là, qui est en prison parce qu'il a vendu 220 faux passes 1000 euros pièce. Vous, en tant que médecin, j'imagine que vous avez du mal à comprendre l'attitude de certains de vos collègues.
Bah, écoutez, les médecins, comme les soignants, nous exerçons un métier pour lequel nous avons prêté serment de tout faire dans l'intérêt du patient. Il est très clair aujourd'hui que faire un faux pass ou un faux certificat de vaccination contre la Covid dans la période que nous vivons aujourd'hui n'est sûrement pas dans l'intérêt de la personne.
Pour terminer, Gilles Annan, plan blanc déclenché en région parisienne. On sait que la vraie vague pourrait arriver dans les jours à venir à l'hôpital pendant les vacances. Est-ce que c'est déjà tendu ? Est-ce que vous poussez déjà les murs dans votre service ?
Oui, la situation est tendue aujourd'hui à l'hôpital, dans mon service, dans mon hôpital comme dans bien d'autres. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, elle est moins de trouver des lits supplémentaires que d'essayer de ne pas fermer les lits qu'on a ouverts. Parce qu'on a, et on espère que le plan blanc va permettre d'éviter cette situation. Mais aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne que l'on a déjà du mal à garder ouverts suffisamment de lits.
Faute de personnel.
Et donc, il est fondamental de réussir à casser la circulation du virus, à faire en sorte que le pic arrive le plus vite possible et qu'il soit le moins élevé possible.
Donc, il faut de nouvelles restrictions. On sait qu'Emmanuel Macron va faire un nouveau point sur les mesures la semaine prochaine.
À plus de 70 000 contaminations par jour, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on monte à 100 000 contaminations par jour pour prendre des décisions d'avoir des restrictions supplémentaires.
Merci Gilles Yannan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On va marquer une petite pause dans RTL Soir et puis ensuite ce sera vos dessous de l'actu. Alors ce seront dans un instant les dessous d'un week-end assez haletant en Formule 1. Dernier Grand Prix de l'année, qui sera champion du monde ? Hamilton face à Verstappen, les deux pilotes se détestent et ils ont exactement le même nombre de points en classement. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Allez, vous écoutez RTL Soir, on va vous rappeler maintenant les grands titres de l'actualité. Il est toujours entendu ce soir à Mulhouse, la garde à vue du double champion olympique Yannick Agnel a été prolongée. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle par une jeune fille mineure au moment des faits. Le demi de mêlée de Toulouse, c'est du rugby. Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde cette année. Et puis les inondations dans le sud-ouest avec des évacuations en cours en ce moment. Dans les Landes, près de 2000 foyers privés d'électricité. On fait un petit point sur le temps justement. Claire, c'est vrai qu'il y a toujours deux départements en alerte rouge ce soir.
Exactement, les pluies ont été diluviennes cet après-midi, elles le seront encore dans la nuit et jusqu'à demain matin, mais progressivement, demain après-midi, ça va s'estomper. Sinon, il faudra composer avec une nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est, avec encore du soleil en Méditerranée et des températures tout simplement stables.
Merci Claire.
RTL Soir,
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir du duel impitoyable en Formule 1. C'est l'événement sport du week-end. Suspense, tension extrême. Dernier Grand Prix de la saison, dimanche 14h à Abu Dhabi. Face à face, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Deux pilotes qui se haïssent et qui sont à égalité parfaite pour l'instant au championnat. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir.
Vous êtes notre spécialiste F1 sur RTL. Abu Dhabi, c'est donc la finale. Est-ce qu'un tel épilogue si serré, c'est inédit ?
Eh bien, en 7 décennies de championnat du monde, il y a eu par 10 fois de faibles écarts, mais c'est seulement la deuxième fois que deux pilotes arrivent sur le dernier rendez-vous avec le même nombre de points. Le même cas de figure s'était présenté en 1974, lors du dernier Grand Prix de la saison, c'était aux États-Unis, entre le Brésilien Emerson Fittipaldi et l'Italien Claire Cazzoni. C'est Fittipaldi qui l'avait finalement emporté. Et puis, 10 ans plus tard, autre moment d'anthologie au Grand Prix du Portugal à Estoril. Alain Prost remporte la dernière course de la saison, mais c'est Niki Lauda qui est sacré champion du monde pour la troisième fois pour un demi-point d'avance sur le Français.
Frédéric, ce qui ajoute du piment, c'est le conflit entre Hamilton et Verstappen. Ils se détestent, ces deux-là.
Ah oui, 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 oui. Alors, il y a déjà un conflit de génération. Hamilton a 36 ans, Verstappen 24. Ils sont tous deux dans des écuries Mercedes et Red Bull qui s'affrontent depuis des années. Mais c'est surtout depuis le début de la saison que la brouille entre les deux hommes s'est accentuée. Certainement parce que pour la première fois depuis bien longtemps, eh bien, Hamilton n'est plus seul sur la planète F1. Hier, en conférence de presse, et alors qu'ils étaient côte à côte, pas un regard, pas un échange. Et pour alimenter cette brouille, eh bien, le jeune néerlandais qui explique aujourd'hui journaliste présent à Abu Dhabi, avoir changé d'opinion sur Lewis Hamilton et Mercedes au cours de l'année en précisant « et pas de manière positive ».
Et l'inimitié s'invite sur la piste parce que ça a été très très chaud en course cette saison.
Oui, je me suis amusé à compter les situations chaudes sur la piste. En 21 Grands Prix, il y a eu une vingtaine de situations que l'on peut qualifier de peu sportives. Point d'orgue à Silverstone en juillet dernier quand Hamilton sort Verstappen de la piste. La réponse du Néerlandais interviendra deux mois plus tard à Monza. Quant à la première chicane, il empêche Hamilton de doublé, la Red Bull décolle et grimpe sur la Mercedes, les images ont fait le tour du monde. On espère maintenant qu'une seule chose, c'est que tout se passe bien dimanche après-midi pour ce dernier rendez-vous de la saison, pour l'intégrité des pilotes, mais aussi pour la beauté de ce sport qui nous fait vibrer, eh bien, 22 dimanches par an.
Ce sera très chaud à Abu Dhabi dimanche, les dessous du duel entre les meilleurs ennemis, Hamilton, Verstappen. Merci beaucoup Frédéric Veil.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Et les chouettes idées dans Laissez-vous tenter dernière tous les soirs de la non moins chouette bande de LVT. C'est Julia Molcou qui est avec nous ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Avec un super coffret à glisser sous le sapin avec les plus belles chansons de Jeanne Moreau. On va chanter avec elle.
Qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains.
Jeanne Moreau a toujours aimé chanter. Sur scène, à la Comédie Française ou sur un plateau de cinéma, dès qu'elle pouvait, elle chantait. Mais sa véritable histoire d'amour avec la chanson commence en 62 sur le tournage d'un film. Et quel film ? Jules et Jim de François Truffaut.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjôla.
À partir de là, Jeanne Moreau va démarrer une vraie carrière de chanteuse avec la collaboration du compositeur Serge Rezvani. Et elle va même s'offrir de nombreux duos, des têtes raides à Brigitte Bardot, sans oublier ce charmant moment avec Yves Duteil.
Dis qui est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il fort comme le vent, long comme le temps perdu.
Comme le trajet de la fond.
C'est tellement joli.
Donc c'est beau.
Ça s'appelle L'Adolescente. Et donc voilà, aujourd'hui est sorti ce coffret merveilleux qui réunit les 50 plus belles chansons de Jeanne Moreau. L'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir l'univers de cette grande artiste à la voix qu'on reconnaîtrait parmi toutes,
oui.
immédiatement dès qu'elle chante, et puis de redécouvrir quelques chansons qu'on entend moins mais qui sont tellement géniales.
Ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs.
Coffret super, donc avec les 50 plus belles chansons de Jeanne Moreau. C'est très émouvant de réécouter des chansons de Jeanne Moreau. Merci pour ce petit cadeau ce soir, chère Julia. Cadeau donc à glisser sous le sapin, pourquoi pas. C'est une riche
idée
à l'approche des fêtes pour le Père Noël. Merci Julien, on vous retrouve demain matin.
Demain matin, 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier.
Avec Stéphane Carpentier, Di Carpi et toute l'équipe pour réveiller les auditeurs le samedi et le dimanche. Merci Julia.
Bon
petite
week-end.
Pause, ensuite RTL Soir va continuer. On va refaire nos régions comme chaque vendredi, 20 minutes près de chez chez vous. Au menu, Noël solidaire en Alsace, guerre de l'eau dans les Alpes et Saint-Jacques-du-Chef en Normandie. À tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.